En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Naissance, émergence et manifestation de la conscience, c'est le thème des conférences retransmises ici sur Canal Académie, des interventions qui se déroulaient dans le cadre de colloques interdisciplinaires et récurrents consacrés à l'homme contemporain. Nous vous proposons de retrouver ici la communication de Pierre Buzer, neuroscientifique et membre de l'Académie des sciences. Il s'intéresse à la conscience chez l'animal. On écoute sans plus tarder Pierre Buzer.
Monsieur le Président, bonjour à tous. Ce matin, nous avons été extrêmement subjugués par le niveau élevé de ce qui a été dit sur la conscience, et même quand on n'a pas parlé de conscience, on a voulu en dire ce qu'elle était. Et cet après-midi, nous serons vraiment au ras des pâquerettes, c'est-à-dire que nous irons vraiment dans les coins de la conscience animale et de la conscience du singe et un peu de la conscience humaine sur les bords. C'est-à-dire que je vais vous emmener dans des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles, entre guillemets, bien que dans les affaires de conscience, rien ne soit simple, tout soit difficile. Je voulais vous parler donc du passage de l'animal à l'homme, car c'est un problème qui se pose. Et finalement, il y a une façon de le régler en disant l'animal pas conscient, finalement, la conscience c'est un truc pour les hommes, les animaux ne connaissent pas. Il y a une partie de l'histoire de la science biologique, ou plutôt de la science psychologique, qui a voulu effectivement que l'animal ne soit pas conscient, et puis c'était terminé, on n'en parlait pas. Ce qui est curieux, c'est que depuis une trentaine d'années, surtout une vingtaine d'années, et de plus en plus, un intérêt se dessine pour l'extension de la conscience à l'animal, ou tout au moins à une partie du règne animal. Et c'est un peu dans ce sens, en admettant un a priori en quelque sorte, je ne peux pas vous le démontrer, je ne peux pas vous démontrer qu'un chat est conscient. Malgré tout, je pars de l'hypothèse qu'il y a dans le règne animal un certain niveau à partir duquel nous pouvons estimer, en hypothèse valable, que l'animal est conscient d'une certaine façon de conscience. On pouvait imaginer plusieurs systèmes dans le mental en général et que la conscience n'était pas tout. Et je laisse tomber l'inconscient dont je ne parlerai pas du tout. Un point sur lequel j'insiste, c'est la différence entre la vigilance et la conscience. Parce que très souvent, on confond les deux. Dans l'ensemble des fonctions cérébrales, on peut opposer la conscience à la vigilance, qui est une fonction plus globale, et d'autre part, à des fonctions également fondamentales qui agissent sur le fonctionnement de la conscience, c'est-à-dire la mémoire, l'attention surtout, qui est un point important, qui décide en quelque sorte que tel afférent va être effectivement pris en compte. Ensuite, la vigilance, inutile de dire que la vigilance et la conscience ne sont pas la même, parce qu'elles ne sont pas identiques. La vigilance est une fonction générale, on est vigilant ou on n'est pas vigilant, mais conscience, c'est être conscient de quelque chose. Autrement dit, il y a une différence à faire. Et ensuite, nous avons les sollicitations externes. Si maintenant nous passons à la conscience, comment est-ce qu'on a pu faire des différences ? À partir des années 50, on a commencé à penser qu'on pouvait différencier deux niveaux de conscience. Ce qu'on a appelé la conscience primaire, d'une part, et l'autoconscience, d'autre part, la conscience réflexive, d'autre part. La conscience primaire, c'est finalement la conscience qu'on veut attribuer par hypothèse. Je n'ai pas de preuves, mais je pense que c'est assez normal que l'on se pose ce problème et qu'on le résolve provisoirement comme cela. Il y a une conscience primaire chez l'animal. Si nous voulons regarder ce qui se passe dans le règne animal, il est intéressant de voir l'évolution des idées que l'on se fait sur la façon dont fonctionne un animal. Nous avons ce que j'ai appelé la boîte noire, c'est-à-dire que l'animal est une boîte noire, l'animal est à la limite l'humain, avec d'un côté le stimulus S et d'autre côté la réponse. À l'intérieur, il y a des choses et des machins, mais on ne s'en occupe pas. On n'étudie que la correspondance stimulus-réponse. C'est la position traditionnelle du behaviorisme d'après la guerre, pendant la guerre, d'avant la guerre et puis jusqu'à les années 60. Ça a été une position qui a été importante du point de vue de la philosophie générale de l'esprit. Et puis ensuite, nous arrivons à un niveau qui a été celui des premiers psychologues qui se sont tout de même intéressés à ce qu'il y avait à l'intérieur du système nerveux. Nous avons donc le système central avec un stimulus de réponse, mais cette fois, on s'intéresse à ce qu'il y a dedans. C'est la façon la plus classique, traditionnelle, maintenant encore, dont on étudie dans l'ensemble, dans les traités de psychologie expérimentale. C'est comme ça que l'on voit les choses, que l'on décrit les choses. Il y a stimulus, il y a les mécanismes, tout ce que vous voulez, jusqu'à la réponse. Troisièmement, nous montons encore, et là, nous avons un progrès, si je puis dire, pour les uns et une régression pour les autres. C'est-à-dire que nous avons d'une part le même système, mais en parallèle et en au-dessus Nous avons le vécu conscient, autrement dit, nous avons l'apparition, est apparue, je ne dis pas quand et je ne dis pas comment, mais est apparue la conscience. Autrement dit, ces trois niveaux représentent trois niveaux épistémologiques en quelque sorte, trois niveaux de recherche, trois niveaux de raisonnement sur la façon de fonctionner des organismes animaux. Deuxième point, si nous considérons maintenant l'évolution, c'est-à-dire quand on va de l'unicellulaire au mammifère, ou tout au moins au primate, et ensuite je me pose la question, quand apparaît la conscience ? Et quel type de conscience peut-on imaginer ? Cette fois-ci, l'idée fondamentale, c'est d'abord que chez tous les animaux existe une possibilité de réactivité réflexe. Depuis l'amibe jusqu'à notre chère espèce, nous avons des possibilités de réaction réflexe. Je ne définirai pas ici le réflexe, je ne dirai pas toute la complexité qui s'associe au terme même de réflexe, c'est simplement, disons, stimulus-réponse. Ensuite, l'idée maintenant arrive. L'hypothèse étant qu'à partir d'un certain niveau du règne animal, apparaît une certaine conscience qui est la conscience primaire. L'autre hypothèse qui est un peu personnelle, c'est qu'il y a une évolution, il n'y a pas de raison que cela apparaisse de tout ou rien, c'est-à-dire que la conscience primaire apparaisse brutalement dans une espèce et se poursuive sans changement jusqu'à l'extrémité, jusqu'à nous. Autrement dit, mon hypothèse, c'est qu'il y a tout de même une phylogénèse dans la complexification de la conscience primaire. Et ensuite, l'autre étant qu'il existe une deuxième conscience, qui est la conscience de l'homme, la conscience réflexive. Et l'hypothèse que le physiologiste que j'étais propose, c'est que la conscience réflexive existe déjà dans les espèces supérieures des primates, non humains. Autrement dit, nous avons une conscience réflexive chez le primate subhumain qui n'est pas la même chez l'orang-outan ou chez le chimpanzé et chez nous. Mes hypothèses ici implique en quelque sorte la naissance de la sensation subjective de douleur. Je prétends qu'en même temps que la conscience primaire, apparaît la sensation consciente de douleur. Et maintenant chez l'homme, je pense qu'une étude détaillée permet justement de faire la séparation entre la conscience dite phénoménale, c'est la conscience de ce qui arrive, et d'autre part la conscience d'action, c'est-à-dire la conscience de ce que nous faisons. J'oppose la vigilance à la conscience phénoménale et la conscience d'action. Et je passe vraiment vers le deuxième niveau de la conscience, qui est en principe celle de l'homme. C'est la conscience subjective, c'est-à-dire je suis conscient d'être conscient. Dans l'ensemble, intuitivement, je pense que vous avez compris, saisi cette différence entre le niveau primaire de prise de contact, prise de conscience de tel stimulus, de telle réponse que l'on fait, mais qui est autre chose que de prendre conscience de ce que l'on fait, qui est un deuxième niveau et qui comporte aussi des subdivisions. L'idée générale dans cette affaire, nous avons donc cette phylogénèse qui... Pourquoi est-ce que j'apprésente la phylogénèse ? Précisément parce que j'ai l'intention de vous montrer que certaines espèces de primates non hominiens ont une conscience subjective, c'est-à-dire un élément d'autoconscience ou de conscience subjective. Donc, faisons le petit détour par ces animaux. C'est tout de même par là que je vais continuer. D'abord, il y a une première étape qui n'est pas vraiment une arrivée vers l'autoconscience. Ce sont les neurones miroirs dont vous connaissez maintenant à peu près tout. L'idée générale, c'est que quand un singe fait un certain mouvement, un certain nombre de neurones de son cortex moteur, autour du cortex moteur, sont activés. Là, le singe voit l'opérateur faire le même mouvement, et bien les neurones déchargent de la même façon. Autrement dit, c'est ce qu'on a appelé les neurones miroirs. C'est une très jolie découverte. Ça n'est pas encore la découverte qu'il y a une conscience chez le macaque. Parce qu'on n'a pas pu faire ça chez le chimpanzé, parce que chez le chimpanzé, on ne fait pas d'exploration à l'intérieur du cerveau, parce que là, il faut tout de même mettre des électrodes dans le cortex moteur du singe, on les retire après, et puis c'est tout, c'est fini. Mais enfin, chez le chimpanzé, par principe, on n'y touche pas. Voilà donc, c'est à retenir. C'est un phénomène qui est une sorte de contact entre l'animal, le macaque, et l'homme. Alors nous allons plus loin, chez les singes, cette fois-ci chez les préhominiens. Et nous arrivons au domaine des bonobos. Qu'est-ce que c'est les bonobos ? Ben, ce sont tout simplement des chimpanzés. Ça fait très chic de parler de bonobos. En réalité, ce sont des chimpanzés nains. Ils sont nains, mais ils sont plus malins. C'est là qu'on a trouvé des trucs formidables. Ce qu'on a appelé la théorie de l'esprit. Alors, chez le bonobo, on a trouvé des choses qui sont considérablement difficiles à illustrer. En gros, chez le bonobo, on note quand le bonobo est avec un copain, c'est-à-dire un autre bonobo, ou bien quand on se met avec un bonobo et un opérateur, il se passe toujours quelque chose qui indique que le singe a compris, a deviné que l'on fait quelque chose de spécial. On sent que ce bonobo tient compte de la situation de l'autre. Autrement dit, ce qu'on a appelé, il a une théorie de l'esprit de l'autre. Retour à l'humain, nous arrivons au chapitre du contact, et c'est finalement là-dessus que je terminerai en grand. Finalement, nous cessons de nous occuper de l'animal seul, nous nous occupons de l'animal dans ses relations avec l'autre. Autrement dit, nous sommes finalement dans les problèmes d'interrelation. Nous l'avons vu au niveau, déjà, tout à l'heure, des neurones miroirs. Tout cela nous mène toujours dans la même idée de la connexion entre un esprit qui comprend l'autre, ce qui est un des éléments fondamentaux, finalement, de la vie sociale. Et alors, la suite, c'est beaucoup de choses. La suite, c'est, j'espère, quelqu'un à ma place, dans peu de temps, bientôt, pourra en parler. C'est la connexion, l'idée, justement, de considérer la conscience, non pas de soi, mais de l'autre. Et finalement, en arriver à l'élément de vie sociale. Je vous ai donné des espèces d'éléments fondamentaux pour la vie sociale, mais on en arrive à plus loin. Chez un chimpanzé, chez les bonobos, ils se trouvent entre eux très sympas, alors que des animaux, les babouins, aussi bien les babouins, parce que je parle des babouins parce que je connais un peu mieux les babouins, mais enfin les macaques seraient toujours en train de se bagarrer. Et alors, ça continue, et nous arrivons finalement à les études sur la conscience. Ces études montrent de plus en plus qu'il semblerait que la conscience soit véritablement, je ne parle pas de la vigilance, je parle de la conscience, c'est-à-dire, soit véritablement le fait du cortex cérébral et non pas des structures profondes. Le cortex cérébral semble être véritablement un élément spécial. Il existe probablement des neurones dans le cortex cérébral qui n'existent pas ailleurs dans d'autres structures du système nerveux, même et surtout chez les primates et chez nous, a fortiori. C'est l'hypothèse. J'en ai parlé ce matin à Prochance. Une Prochance n'est pas tout à fait d'accord. On en a discuté, on n'a pas eu le temps d'en discuter longtemps. Mais enfin, il semblerait tout de même que ce qu'il nous a présenté ce matin était tout de même une indication qu'il y avait des actions et des effets corticaux qui sembleraient faire que des cellules corticales, qu'il y ait dans le cortex des cellules qu'il n'y a pas ailleurs. Et vous avez chez les primates, en particulier les primates supérieurs et l'homme, on a montré la présence de ces cellules qui ne sont pas nécessairement les cellules dont a parlé Alain ce matin, mais ce sont des cellules que l'on trouve essentiellement dans le cortex singulaire. Ce sont des cellules qu'on appelle des spindle cells, des cellules en fuseau. Ce sont des cellules qui, effectivement, comme disait Prochien ce matin, sont des cellules qui déchargent très rapidement, sont probablement les mêmes dont il a parlé, mais qui sont localisées dans la région du cortex singulaire, c'est-à-dire plutôt dans la région médiane du cortex. Et ce sont ces cellules dont on a dit qu'elles n'existaient que chez les préhominiens, manque de peau, si je puis dire. Elles existent aussi chez les macaques. On en a trouvé quelques-unes maintenant. Ça date de 2012, c'est une histoire très récente. Autrement dit, nous sommes là devant des données qui présagent vraiment de la suite. C'est qu'on redevient réductionniste, si je puis dire, parce que finalement, tout ce que je vous ai dit là, c'était véritablement une analyse tout à fait anti-réductionniste de ce qu'on peut faire du système nerveux central, bien sûr, et de ce que j'ai fait dans ma jeunesse et pendant toute ma vie d'expérimentateur, beaucoup plus analyste, beaucoup plus réductionniste, on arrive à globaliser, et là, tout à coup, pof, on retombe sur une sorte de réductionnisme où, finalement, on arrive à faire une corrélation probable entre des cellules, tout simplement, tout bête, et puis quelque chose d'aussi compliqué que la conscience sociale, la vie sociale, etc. Vous voyez, j'espère que vous avez saisi le chemin parcouru, ça vaut ce que ça vaut. Mais je suis assez confiant. J'avais préparé il y a 6 mois un autre papier sur la même question. Eh bien, je n'avais pas encore ces données. Ça a monté, ça bouge. Et ça bougera certainement. Je ne le verrai plus. Mais ça bougera et ce sera certainement très intéressant dans la suite. Merci de votre attention.
C'était Pierre Buzer, neuroscientifique, membre de l'Académie des sciences qui s'intéressait à la conscience chez l'animal. Une communication qui avait lieu dans le cadre d'un colloque consacré à la naissance, l'émergence et la manifestation de la conscience. Un événement qui avait lieu à la Fondation Del Duca de l'Institut de France le 5 décembre 2012, événement organisé dans le cadre de colloques réguliers sur l'homme contemporain. Restez à l'écoute de nos retransmissions en téléchargeant dès maintenant les autres interventions de cette journée. Retrouvez Alain Prochian, morphogénéticien, Claude Debreu, philosophe et historien des sciences, le philosophe Jean Béchler et le paléontologue Henri Lumley ou encore le physicien Philippe Guillemin. Merci de votre écoute.